Monsieur Vintage, dans la rubrique commentaires de l'actualité politique et des médias, vous avez notamment retenu le plan de redimensionnement de l'armée.
Oui, en effet. Écoutez, l'armée est un sujet qui est en discussion depuis très longtemps en Suisse. C'est bien sûr dû à la démocratie directe, avec de régulières initiatives contre l'armée. Une fois, c'est contre les avions de combat, une autre fois, c'est contre les places d'armes. Donc, cette lutte des antimilitaristes contre l'armée est permanente. Et il y a maintenant un espèce de consensus pour dire qu'il faut redimensionner l'armée. Mais l'autre jour, lorsque le Conseil fédéral Uli Maurer a commencé à présenter le sujet qui va venir au premier plan d'ici quelques jours, vous aviez tout de suite les médias qui disent « Maintenant, il faut qu'il présente quelque chose de parfait, sinon il sera définitivement discrédité. » Vous voyez, c'est quand même énorme de dire une chose comme celle-là. L'armée n'est pas que la question de Uli Maurer, c'est tout le Conseil fédéral, c'est toute la Suisse, c'est tout le pays qui doit s'occuper de l'armée. Et je pense qu'il y a en ce moment une chose dont on ne se rend pas du tout compte, c'est que les tensions internationales, le contexte politique et militaire fait que dans très peu de temps, on verra que la discussion n'est plus comment réduire l'armée, mais au contraire, comment la renforcer, comment la restructurer, comment la rendre plus performante et peut-être même faudra-t-il réaugmenter les effectifs. Personne ne pense encore à cela. Or, le but du politique, c'est quand même de prévoir cela. Nous avons l'impression qu'on vit comme si on était dans un temps de paix continue. Or, on voit bien que les choses vont changer. Donc, voilà un aspect qui me semble absolument fondamental, qu'on se rende compte qu'on ne peut pas travailler avec l'armée, discuter de l'armée, de manière qui parfois me semble irresponsable. Il est urgent de parler de l'armée en fonction du nouveau contexte politique menaçant plus que jamais.
Ensuite, pour rebondir sur un sujet connexe, il y a aussi de grosses discussions autour de l'UDC de façon un peu larvée, nébuleuse, comme si elles n'avaient aucun rapport entre elles.
Si on observe ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, on voit toute une série d'interventions, de prises de position qui n'ont effectivement l'air de n'avoir aucun rapport entre elles, mais en gros, il va de soi que l'on a en tête les élections fédérales de 2015. Et vous avez une série d'acteurs qui nous disent que l'UDC n'arrivera certainement pas à garder son pourcentage actuel. Comme par hasard, voyez-vous, l'UDC est de nouveau en train de dicter l'agenda politique, c'est déjà le cas, une année à l'avance, et les autres partis, les médias, sont en train de trouver toute une série d'arguments pour essayer de montrer les difficultés de l'UDC, voire bien entendu de la discréditer sur certains aspects. Mais ce qui est frappant, c'est que toute une série d'acteurs, de partis politiques différents et des médias s'y mettent sous un aspect ou sous un autre. Bien sûr qu'il n'y a pas là derrière un complot, mais c'est la simultanéité des interventions qui vont dans le même sens qui surprend tout de même. Alors, quelques exemples, n'est-ce pas ? L'ancien conseiller fédéral Oggy est intervenu pour inviter les membres de l'UDC, dits réalistes, modérés, de résister à Blocher. Alors, Oggy a bien sûr une certaine influence. Il nous a dit 100 fois, la Suisse existe. Mais on peut se demander en ce moment si ce n'est pas Oggy qui veut exister et qui n'a peut-être plus le poids qu'il voudrait. Ensuite, constat de divers médias, les interventions d'Oggy, les appels d'Oggy restent vains. On en déduit que les membres de l'UDC n'osent pas parler, n'osent pas intervenir, refusent des interviews. C'est comme si c'était un parti totalitaire, autoritaire. Alors que ce parti, les décisions qui sont prises à la suite d'initiatives populaires viennent de la base de la population, mais évidemment, il est insupportable de voir que ce parti récolte régulièrement l'appui de la population sur des points qui, justement, on dira qu'ils sont démagogiques, qu'ils ne sont pas essentiels. Or, il est évident que l'immigration en ce moment, avec tout ce qui se passe de nouveau dans le contexte international, est majeure, préoccupe beaucoup les gens, et l'UDC tient à défendre le pays. Nous avons là une vision patriotique que partagent beaucoup de gens, d'où le fait qu'on veut également faire en sorte que le droit national prime sur le droit international. Et là aussi, on nous dit, mais voyons, le droit national n'est pas mis en cause, ce sont des problèmes de détail, la Suisse doit s'adapter. Donc, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va avoir un conflit long, durable, systématique, entre deux visions opposées de la Suisse. L'une, mais qui est surtout de type économique, qui veut s'adapter à l'Europe, et une autre qui tient à défendre le pays, comme on l'a toujours fait dans l'histoire, et cette défense patriotique du pays est considérée comme passéiste, réactionnaire, alors qu'on peut parfaitement défendre son pays et être très ouvert, ce que la Suisse a toujours été. Donc, nous avons ici toute une série d'acteurs. Vous voyez, on dit que le parti, tout se dirige du sommet, mais on oublie que quand on a évincé Blücher du Conseil fédéral, c'est quelques têtes du PDC et du Parti socialiste qui l'ont décidé. On n'a nullement demandé au peuple suisse si elle voulait éjecter Blücher du Conseil fédéral. Et la dernière invention, c'est évidemment l'initiative Écopop, que beaucoup craignent, parce qu'évidemment, ça aurait des conséquences économiques, là aussi, et démographiques. C'est une initiative qui va quand même dans un sens un peu, dans le même sens que la décision que le peuple suisse a approuvée contre l'immigration de masse, avec des mesures supplémentaires. Mais il y a un autre point fondamental, c'est que les opposants au 9 février, ceux qui veulent s'adapter au contexte international, ont une vision essentiellement économique. Et c'est là que ça devient grave. La population se rend compte de tous les changements au niveau culturel, au niveau démographique, dans les rapports avec l'immigration, avec l'altérité. Donc le fait d'être fixé uniquement sur l'économie, les gens s'en rendent compte, et c'est finalement la population dans l'ensemble qui a un regard beaucoup plus global et multidimensionnel que ces acteurs orientés uniquement par des intérêts économiques. C'est un autre conflit majeur qui va se développer, et j'espère qu'on saura le poser en ces termes, surtout maintenant dans la phase des élections fédérales de 2015.
Alors, pour penser global, vous avez évoqué d'abord les tensions géopolitiques qui sont grandissantes, puis ensuite tout le remue-ménage autour de l'UDC. Or, on voit que par rapport à ce qui arrive aux chrétiens d'Orient, c'est principalement les gens vraiment de droite qui ont osé se prononcer sous les huées de la gauche anti-religieuse quand il s'agit de chez nous. Puis, il semble y avoir eu un revirement avec l'affaire du journaliste James Follett.
Là, vous posez un autre problème capital et qui montre qu'on manque vraiment un petit peu de réflexion politique fondamentale et d'une lecture à dimension multiple. Voyez-vous, ça fait maintenant quand même, ne l'oublions pas, des semaines, des mois, et ça a très souvent été, on l'oublie, toujours ainsi, que les minorités religieuses, dont particulièrement les chrétiens, mais d'autres aussi, ont été maltraités, surtout dans les pays musulmans. Et voyez, quand on dit maltraités, c'était l'horreur absolue. pendant des semaines, des mois, on savait que des chrétiens étaient non seulement chassés, qu'ils devaient fuir, mais qu'ils étaient massacrés, décapités, crucifiés, les pratiques les plus horribles. Et voilà que nos médias ont réussi à dire encore que défendre ou accueillir des chrétiens, ce serait du communautarisme, n'est-ce pas? Que on devrait accueillir tout le monde sans distinction et pas spécifiquement les chrétiens. On n'a jamais vu à ce point ne pas défendre des personnes qui ont une appartenance commune. On peut aussi en accueillir d'autres, ça va de soi. Mais ça montre à quel point, si vous voulez, on a des modes de raisonnement simplistes, lamentables, et surtout le phénomène qu'on a dû voulu cacher ces phénomènes. Il fallait qu'il y ait cet acte monstrueux de la décapitation, évidemment répercuté délibérément par tous les moyens audiovisuels et les réseaux sociaux dans le monde entier, pour qu'enfin on trouve dans le journal Le Temps d'aujourd'hui, en première page, un article sur ce sujet. Je trouve qu'on a là quand même quelque chose de lamentable, alors que on connaissait, on savait des réalités. Je croyais que le temps, c'est le cas de le dire, le temps où les médias et certaines idéologies politiques de gauche passaient leur temps à cacher, à ne pas parler de ce qui les dérangeait, comme vous le dites, l'aspect religieux évidemment, c'est à 100 lieues du socialisme, il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour défendre ces chrétiens d'Orient. Eh bien, on voit là maintenant que il a fallu un acte monstrueux, mais j'aimerais simplement rappeler qu'il y en a eu des milliers, des centaines de milliers, tous plus atroces les uns que les autres. Et je trouve scandaleux que les médias n'en aient pas parlé davantage, plus tôt et de manière très concrète. Certains ont été jusqu'à dire qu'on ne devrait pas montrer les images d'horreur. Au contraire, il faut montrer ce que certains sont capables de faire en prenant appui sur une religion, même si cette religion n'amène pas toujours et forcément à des actes aussi odieux et barbares.
Merci, monsieur Windisch.